Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur l'économie marocaine version fin 2025. Et ce qui est assez fascinant dans les documents qu'on a pu consulter, notamment un article de la revue EcoBusiness, c'est ce grand écart permanent.
Oui, c'est très frappant.
D'un côté, on a une économie qui semble sprinter, avec des chiffres records, par exemple dans le tourisme, une industrie qui investit.
Massivement.
Et de l'autre, cette même économie, eh ben, elle semble un peu boitée. On a des PME qui luttent pour être compétitives et un vrai casse-tête pour créer des emplois pour les jeunes.
C'est tout le paradoxe.
Notre mission aujourd'hui, c'est donc de comprendre ensemble comment une économie peut avancer si vite et, en même temps, être freinée par des défis aussi profonds. On va essayer de décortiquer ça, de voir ce qui se cache un peu derrière les grands titres.
Et pour poser le décor, si on prend les chiffres, la croissance au troisième trimestre 2025, elle est de 4,3%.
Ce qui est un bon chiffre.
C'est un bon chiffre, c'est solide. Mais comme vous le disiez, c'est un chiffre qui agit un peu comme un rideau. Derrière, les
Je vais
réalités
rester
sont
encore
très
dans
différentes. Voilà, les pièces se jouent à des rythmes complètement différents. Et surtout, ça cache une sensibilité qui, elle, persiste au choc extérieur, que ce soit la sécheresse ou les tensions économiques mondiales.
Alors, commençons par ce qui brille le plus, le tourisme. Les chiffres là sont spectaculaires. On parle de plus de 9,6 milliards de dollars de recettes sur les 8 premiers mois de 2025.
Une hausse de 14% par rapport à l'année d'avant, c'est énorme.
Et plus de 13,5 millions de visiteurs. C'est impressionnant. La question qui vient tout de suite, c'est est-ce que cette croissance est vraiment durable ou est-ce que c'est juste un effet de rattrapage post-pandémie qui risque de s'essouffler?
C'est une excellente question. Alors, l'effet de rattrapage, bien sûr, il a joué un rôle au début. Le Maroc a vraiment su capter cette soif de voyage mondial.
D'accord.
Mais ce qu'on observe maintenant, ça relève plus d'une stratégie de fond. Il y a une véritable montée en gamme. On voit des investissements colossaux dans l'hôtellerie de luxe, à Marrakech, à Agadir, à Fès.
Ce n'est plus juste une destination bon marché.
Non, plus seulement. C'est devenu une destination de qualité.
Et j'imagine que pour remplir ces hôtels, il faut bien que les gens puissent venir facilement.
Exactement. L'accessibilité a été le deuxième moteur. Royal Air Maroc, mais aussi beaucoup de compagnies étrangères, ont multiplié les lignes.
Ah oui.
Et puis, il y a un aspect stratégique qui est fascinant, c'est la diversification des marchés. Les Européens restent majoritaires, bien sûr, à 60%, mais on voit une percée très très nette sur le marché africain.
Qui était sous-exploité jusqu'ici.
Très peu exploité. Le Maroc se positionne vraiment comme un hub continental, pas seulement comme une porte d'entrée de l'Europe.
Mais cette médaille, si brillante, elle doit bien avoir un revers. L'article que nous avons mentionné mentionne des problèmes de saturation des infrastructures,
Oui.
notamment dans des zones plus fragiles comme l'Atlas, et puis l'impact du tourisme de masse sur l'environnement.
C'est l'inévitable contrepartie d'une croissance aussi fulgurante. La pression sur les ressources en eau, sur les sites naturels, elle est immense. Et il y a un autre impact, plus social, plus économique.
Lequel?
Celui sur les petites et moyennes entreprises locales.
C'est-à-dire que les grands groupes hôteliers raflent un peu tout le marché et les petites auberges familiales, elles, ont du mal à suivre.
C'est un peu ça. Ces PME, elles peinent à s'intégrer dans une économie du tourisme qui est de plus en plus numérisée. Il faut être sur les grandes plateformes de réservation, avoir un marketing digital performant.
Ça va très vite.
Ça va très, très vite. L'État met en place des aides, bien sûr, pour le financement, la formation numérique, mais le défi reste de taille pour que la richesse du tourisme irrigue vraiment tout le tissu économique.
D'accord. Et ce défi, pour les PME, j'imagine qu'on le retrouve à une échelle encore plus grande dans l'industrie. C'est l'autre moteur de croissance mis en avant dans notre source.
Tout à fait. L'industrie, elle, présente un tableau tout aussi contrasté. Le chiffre qui frappe, c'est une hausse de 13,9% des importations d'équipements industriels.
Ce qui est un signal très fort d'investissement.
Oui, que les usines s'équipent, se modernisent, surtout dans l'automobile, l'électronique.
Attendez, là, il y a quelque chose qui me frappe. Donc, le signe de la bonne santé industrielle du Maroc, ce seraient ces importations massives de machines immenses. Mais c'est en réalité le symptôme de sa plus grande faiblesse. C'est un paradoxe assez incroyable.
Vous mettez le doigt dessus, c'est le cœur du paradoxe industriel marocain. Le pays est devenu une plateforme d'assemblage, de production très performante,
D'accord.
mais il reste ultra dépendant de l'étranger pour la technologie qui fait tourner ses usines. On importe les machines-outils, les robots, les systèmes d'automatisation. L'enjeu pour les années à venir est immense.
C'est-à-dire?
Il faut développer une capacité locale à produire ces équipements à haute valeur ajoutée pour gagner en autonomie. L'automobile, c'est l'exemple parfait. On produit des centaines de milliers de voitures,
Oui.
mais on importe l'essentiel des composants électroniques et des chaînes de montage robotisées.
Cette dépendance, ça doit rendre la compétition internationale encore plus rude pour les entreprises qui n'ont pas la taille des géants, justement. L'article parle d'un objectif du gouvernement qui semble colossal.
C'est le mot.
Passer de 2000 à 10 000 entreprises exportatrices d'ici 2030. C'est presque mission impossible, non?
C'est extrêmement ambitieux. D'autant que les obstacles pour les PME sont, ils sont nombreux. Il y a les coûts de production qui peinent à rivaliser avec ceux de la Turquie ou de la Chine.
Classique.
Il y a la complexité administrative, les douanes, l'accès au financement qui reste un parcours du combattant. Mais l'article met en lumière un frein beaucoup plus subtil, plus structurel. Il l'appelle le frein du dirham.
Alors ça, c'est vraiment le monde à l'envers. On nous apprend depuis toujours qu'une monnaie forte, stable, c'est un signe de bonne santé économique. Et là, notre source nous dit que c'est un frein. Expliquez-nous ça.
Et c'est là tout le paradoxe de la politique monétaire. Le dirham, la monnaie marocaine, est très stable, presque forte par rapport à ses concurrents directs.
Ce qui est un gage de confiance sur le papier.
Sur le papier, oui. Mais dans la réalité du commerce mondial, ça rend les produits marocains mécaniquement plus chers que ceux de la Turquie ou de l'Égypte, par exemple, qui ont vu leur monnaie se dévaluer fortement.
Et ça, pour certains secteurs, ça doit être terrible.
Pour l'agroalimentaire ou le textile, où la compétition se joue au centime près, c'est un handicap majeur.
Et face à ça, que fait le gouvernement? J'imagine qu'il ne peut pas juste dévaluer la monnaie.
Non, bien sûr. L'article parle d'un nouveau plan d'appui pour les très petites et moyennes entreprises, les TPME.
En quoi il consiste?
C'est un plan qui essaie de jouer sur plusieurs leviers. Côté financement, d'abord, on a des prêts subventionnés et des garanties de l'État pour rassurer les banques.
Ce qui est crucial, on le sait, parce que les banques sont souvent très frileuses avec les petites structures.
Exactement. Ensuite, le plan s'attaque à un vrai fléau, les délais de paiement.
Ah, le cauchemar de tout petit entrepreneur.
Un cauchemar qui peut tuer une entreprise saine. Donc, des mesures plus strictes pour forcer les grandes entreprises et l'administration à payer à temps.
D'accord.
Et enfin, il y a un gros volet sur la digitalisation. Des aides pour s'équiper en logiciels, en plateforme e-commerce, pour exister sur les marchés mondiaux.
Mais il y a un mais.
Il y a un mais, et la source le souligne bien, ce plan, il cible des entreprises qui ont déjà une certaine taille, disons entre 1 et 200 millions de dirhams de chiffre d'affaires.
Ce qui laisse de côté tout le tissu des toutes petites entreprises.
Voilà, celles qui sont souvent familiales, peu formalisées, et qui risquent de passer à travers les mailles du filet.
Donc on a un plan pour aider à exporter, mais pour exporter, il faut produire. Et pour produire, il faut des gens, ce qui nous amène à ce que l'article nomme le casse-tête marocain, la création d'emplois. L'objectif, c'est 1,45 million d'emplois d'ici 2030. Le chiffre il est tellement énorme qu'il en paraît presque abstrait.
Il est colossal et le défi, il est double. Il n'y a pas que la quantité, il y a surtout la qualité et l'adéquation de ces emplois. Le taux de chômage des jeunes de moins de 30 ans, il dépasse les 30%,
C'est énorme.
surtout chez les jeunes diplômés et les femmes. C'est le symptôme d'une fracture profonde entre le système éducatif, qui produit des diplômés dans des filières parfois saturées.
Et les besoins réels du marché du travail?
Précisément, les entreprises cherchent désespérément des compétences dans le numérique, la data, la cybersécurité, et elles ne les trouvent pas forcément.
Alors, d'où sont censés venir ces 1,45 million d'emplois? Et quels sont les secteurs d'avenir sur lesquels le Maroc mise tout?
Ils sont très clairement identifiés. D'abord, le numérique, comme on vient de le dire, l'intelligence artificielle, le big data, tout l'écosystème tech.
Logique.
Ensuite, et ça c'est un atout majeur du Maroc, les énergies renouvelables. Le pays est déjà un leader régional avec des projets emblématiques comme la centrale solaire Nour à Ouarzazate.
Oui, bien sûr.
L'objectif de 52% d'énergie renouvelable dans le mix électrique, c'est un gisement d'emplois énorme. Et enfin, l'industrie 4.0.
Industrie 4.0, c'est un de ces termes qu'on entend partout. Concrètement, ça veut dire quoi pour le Maroc?
Concrètement, c'est l'intégration massive du numérique et de l'automatisation poussée directement dans les usines. Pensez aux chaînes de montage de l'automobile et de l'aéronautique, qui sont de plus en plus intelligentes, connectées, robotisées.
C'est là que sont les emplois de demain.
À haute valeur ajoutée, oui.
Et cette course vers le futur, vers le numérique, les énergies vertes, est-ce que ça veut dire que le Maroc est enfin en train de couper le cordon avec sa dépendance historique à l'agriculture et donc aux caprices de la météo?
C'est la tendance de fond, oui. Il ne faut pas se voler la face, l'agriculture reste un secteur vital qui emploie encore beaucoup de monde et qui est très vulnérable à la sécheresse.
on ne l'oublie pas.
Mais la montée en puissance de l'industrie et surtout des services, qui pèsent pour 60% du PIB aujourd'hui, ça construit une économie structurellement plus diversifiée et donc plus résiliente.
Cette diversification est la clé.
C'est la clé. Et on la voit à l'œuvre dans des domaines un peu inattendus, comme la logistique.
Ah oui, l'article donne l'exemple du port d'Agadir, qui change de dimension.
Absolument. C'est un cas d'école. Grâce à un partenariat avec l'armateur Samskip, Agadir devient un nouveau hub maritime majeur. Il crée une route directe vers l'Europe du Nord.
Et ça change quoi concrètement?
Ça permet de désengorger le port géant de Tanger Med, bien sûr. Mais surtout, ça désenclave toute une région économique du Sud et ça diversifie les artères commerciales du pays. C'est un signe très concret que la diversification, ce n'est pas qu'un slogan.
Donc, si on fait le bilan de tout ça, on a une économie marocaine qui a clairement un pied sur l'accélérateur, il y a une stratégie volontariste, des réussites indéniables, mais qui garde l'autre pied sur le frein, avec des blocages structurels profonds.
C'est exactement ça. Si on connecte tous les points de notre analyse, les grands défis sont clairs. Le premier, c'est de traduire la croissance macroéconomique en emploi de qualité pour une jeunesse qui a tant des perspectives.
Le plus urgent, sans doute.
Le deuxième, c'est de réussir à renforcer la compétitivité de ce vaste tissu de PME. Et le troisième, c'est de piloter une politique monétaire qui doit naviguer entre la stabilité du dirham et la nécessité de soutenir les exportations.
Un équilibre difficile à trouver.
Très délicat. La réussite de la transformation du Maroc se jouera sur sa capacité à relever ces trois défis en même temps.
Et pour finir, la pensée qui me reste de cette discussion, c'est une question en suspens. Toute la stratégie marocaine semble penser par le haut, des grands plans nationaux, des méga-projets d'infrastructures, des objectifs chiffrés très ambitieux.
Oui, une vision très centralisée.
Et la question fondamentale, c'est de savoir si cette impulsion parviendra à transformer en profondeur le tissu économique par le bas. C'est-à-dire, est-ce qu'elle réussira à embarquer les millions de très petites entreprises familiales, les jeunes des régions enclavées, qui sont au fond à la fois le véritable moteur potentiel du pays, mais aussi aujourd'hui son plus grand défi.